Alors, on vous apprenait peut-être ce matin, mais on l'a appris réellement hier.
Sur l'heure du souper. Ben, autour, Pierre Jobin l'a annoncé à 6h10.
Ah, 6h10. Oui, ben oui,
pendant
t'as raison.
Bulletin de nouvelles.
Oui, t'as raison, je l'ai pris à 6h30, moi, à peu près.
Ouais, 6h10 autour de, ouais.
Oui, t'as raison. Le décès d'un bâtisseur, grand philanthrope, M. Maurice Tanguay, qui est décédé à sa résidence à l'âge de 87 ans. Et notre prochain invité l'a bien connu.
Oui.
Il était en politique municipale comme conseiller, mais aussi comme maire à Rimouski pendant plusieurs années. Il est aussi à la tête de l'organisation de l'Océanique de Rimouski. Monsieur Éric Forêt, aujourd'hui sénateur. Bonjour, Monsieur Forêt.
Oui, bon matin.
Alors d'abord, je vous offre mes condoléances. Vous avez bien connu Monsieur Maurice Tanguay. J'ai envie de vous demander tout de suite le souvenir que vous allez garder de Monsieur Tanguay.
Je pense que le souvenir, on est tous unanimatiques. On perd un bâtisseur, autant dans le domaine commercial, sportif que de la philanthropie, mais on perd surtout un grand homme, un homme d'une générosité incroyable qui autour de lui avait, je vous dirais, des valeurs importantes, des valeurs humaines et qui avait un esprit de famille tout à fait exceptionnel. C'est quelqu'un qui... avec qui j'ai eu le plaisir de côtoyer, de travailler pendant 10 ans, où on a développé l'équipe de toute une région, l'Océanique, et j'en ai de nombreux souvenirs intéressables de M. Tanguay. Quand M. Tanguay, je pense que le dynamisme qu'il peut générer, quand il nous entraînait vers un objectif, vers une vision, automatiquement, on avait le goût d'embarquer avec lui de suite.
Monsieur Forêt, on sentait plus fort quand on avait parlé avec Maurice. Hein? Quand on venait de lui parler, il me semble qu'on venait de gagner quelques pouces, puis on était meilleur quand on avait fini de lui parler. Hein?
Effectivement, et je pense que l'influence que Maurice Tanguay a eue auprès de moi, mais auprès de tellement de gens qui l'a côtoyé, auprès de tellement aussi de nos joueurs qui ont tout au long de leur carrière, de leur passage à Rimouski, ont subi une influence très positive de Maurice Tanguay.
Racontez-moi
quelqu'un qui... Oui.
Ben, j'allais dire, racontez-moi un peu l'arrivée de l'Océanique de Rimouski, justement, parce que là, vous étiez à Rimouski à ce moment-là. M. Tanguay achète une équipe de hockey pour la rapatrier dans la région. Comment ça s'était passé à l'époque?
Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que à l'époque, moi, j'étais pas du tout dans le secteur. J'étais dans le domaine de l'automobile. Ouais. Et j'étais conseiller municipal. Ce qui s'est passé, c'est que Maurice Tanguay est venu avec Pierre-Paul Danjou, à l'époque, Marius Fortier. Il est venu voir Rimouski parce qu'il avait acheté les Lynx de Saint-Jean. Il a été surpris parce qu'on avait le Colisée de Rimouski qui était, après le Forum de Montréal et le Colisée de Québec, c'était l'amphithéâtre qui avait la plus grande capacité. Il a été vraiment étonné de voir nos installations. Maintenant, il y a eu une première série de négociations parce qu'il y avait déjà un groupe de gens de Rimouski qui avait tenté d'obtenir une franchise. Nous, on s'est rencontrés. Moi, j'ai rencontré M. Tanguay, Marie Sportier, en leur expliquant qu'il y avait aussi quelqu'un, un groupe de gens d'affaires de Rimouski. Et par la suite, mais ça s'est déroulé très rapidement. M. Tanguay a voulu s'associer avec les gens de Rimouski. Ce qui a été fait d'ailleurs avec parce qu'au tout début, c'était un groupe qui détenait 50% des actions, donc Maurice Tanguay, Jacques, son fils, et André Jolicoeur. Et 50% des autres actions étaient détenues par des gens, 70 hommes d'affaires de la région, là, okay. D'ensemble de la région. Donc, il y a eu des négociations, ça s'est bâclé un dimanche matin à l'hôtel de ville où on a réussi à trouver des conditions gagnantes pour respecter le hockey mineur, le patinage artistique et les autres activités qui se déroulaient au Colisée. Et rapidement, ça s'est mis en place. Et moi, un concours de circonstances, je vends mes actions dans la construction automobile. Et M. Tanguay m'a offert d'embarquer avec lui dans cette aventure. Il y a eu Doris Labonté qui était le premier homme d'hockey engagé. Et moi, j'étais engagé à l'époque pour m'occuper de tout un côté administratif et mise en marché.
Donc, vous étiez-vous avec l'organisation en 2000, lors de la conquête? Puisque je me souviens, dans une entrevue de 2013, M. Tanguay, il y a des images, en fait, de la conquête. Puis il y a une image très spécifique qui m'a vraiment ému quand j'ai vu ça. C'est Monsieur Tanguay qui est sur la glace et puis qui dit dans une émotion que en tout cas que je pense pas qu'il démontrait très souvent là. Tu sais, il était vraiment très exalté puis il dit c'est le plus beau jour de ma vie. Ça, vous avez vécu ce moment-là avec lui?
Exactement, on l'a vécu. Moi, j'étais là de 1995 à 2005. Mm-hmm. Donc les 10 premières années de l'Océanique. Écoutez, ces 10 années-là, on a, je pense, de mémoire, là, on a eu au début les scénarios les plus optimistes. On parlait d'une moyenne de autour de 2500 à 3000 spectateurs. Dans les 10 premières années, on a eu plus de 4500 de moyenne. Et on a eu des grands moments. On a eu les conquêtes de la Coupe du Président, la Coupe Mémorial en 2000. Qui était un moment exceptionnel on a eu quand même une autre participation en 2005 avec Sidney Crosby où malheureusement on avait perdu en finale contre London mais ça a été effectivement Stanguy était tellement nerveux qu'il ne pouvait pas assister au match dans l'amphithéâtre.
Ah ouais?
Il assistait au match soit de son bureau ou des fois à l'extérieur, quand on est à l'extérieur. Et il venait faire un tour, quelques présences à l'intérieur du bâtiment. Mais il était tellement nerveux, il était tellement impliqué avec les joueurs qu'il n'était pas en mesure, au début de l'équipe, d'assister complètement à la partie assis dans les gradins.
Il était trop proche du banc, M. Forêt. Il était assis en arrière. Ben, hein? Il était juste en arrière du banc. Là.
Première rangée en arrière, oui. Il était exactement très, très près du banc, effectivement.
Ça démontre quand même toute la passion puis le cœur qu'il mettait aussi dans ses activités, il faut dire.
Je pense que chacun des joueurs sentait vraiment que pour M. Tanguay, c'était comme ses enfants. C'était quelqu'un qui a inspiré cet esprit de famille-là à l'intérieur de l'organisation. Et chacun de ces joueurs-là, c'était quelqu'un d'exigeant, mais c'était quelqu'un qui était tellement généreux. Je pense que vous le disiez tantôt. Et moi, j'en étais témoin tout au long des années où j'ai travaillé avec M. Tanguay. Le nombre de fois où M. Tanguay a été généreux envers des gens d'une façon très discrète, sans que personne ne sache. Oui, on connaît la Fondation Maurice Tanguay, on connaît amablement Maurice Tanguay, mais le nombre de fois que M. Tanguay, personnellement, a aidé des familles dans le besoin, c'est inimaginable.
Je suis heureux que vous le mentionniez parce que M. Tanguay a déjà dit en entrevue que ses deux grands souhaits après sa mort, c'est qu'on se souvienne de lui comme un homme qui voulait aider les autres et que la Fondation perdure puis lui survive. Quand on dit justement aujourd'hui, on se souvient de M. Tanguay, puis on repense à son œuvre, aider les autres, ça revient systématiquement. Vous venez de me le dire, M. Forest, je pense que je pense qu'on peut dire que c'est mission accomplie.
Effectivement, je pense que M. Tanguay nous a quittés. D'ailleurs, j'offre, je l'ai écrit, mais j'offre officiellement toutes mes plus profondes sympathies à Jacques, à France, à Hélène, à toute la famille. Mais M. Tanguay avait un esprit des valeurs familiales, et on le voit dans son organisation, des valeurs familiales indéniables. Et il nous laisse en héritage de grandes valeurs humaines et des grandes valeurs au niveau de la philanthropie, de la famille, d'aider les autres. Le respect, la solidarité, la générosité, c'est vraiment c'était des lignes de vie importantes pour M. Tanguay.
Merci pour votre temps, pour votre témoignage ce matin, M. Forest. Très, très apprécié.
Plaisir et mes sympathies à tous les gens qui l'ont connu et spécialement à sa famille.
Merci, pareillement à vous.
Et surtout à sa conjointe Madeleine qui a été pour lui un poteau toute sa vie. C'était un couple formidable.
Merci, M. Forest. Passez une belle journée.
Merci, bonjour.
Okay, bonjour. Éric Forêt, sénateur, ex-maire de Rimouski aussi, qui était à la tête de l'Océanique. Mm-hmm. Et puis, quand il dit que Mme Madeleine a été un poteau, voire un phare pour M.
Derrière
Tanguay,
chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est pas juste un slogan et une expression.
Je sais plus si je vous l'ai dit tantôt, mais je vais le redire sinon parce que j'ai trouvé ça tellement, tellement fort comme phrase. Là. Il expliquait à Bruno Savard lors de cette longue entrevue en 2013.
Oui.
Il parlait de la façon dont le travail est organisé et puis qu'il appréciait que même si ses fils, c'est-à-dire son fils, ses filles, mais aussi ses petits-fils s'impliquent dans la compagnie, il faut qu'ils commencent en bas, qu'ils gravissent chacun des échelons. Mais il disait, le travail, c'est plus comme c'était avant. Maintenant, c'est plus ça. Là, on travaille plus 80 heures semaine. C'est plus c'est correct là, d'avoir aussi du temps pour la vie de famille. Et pour l'exprimer, il a dit, vous savez, moi, je travaillais, je partais à 6 heures le matin, j'arrivais à 22 heures le soir. C'est moi, quand j'ai connu Jacques, il avait 14 ans.
Ouais, c'est ça que ça fait aussi.
Donc, mon fils Jacques, je le voyais, il était là, mais j'ai réellement commencé à le connaître, il avait 14 ans. Ouais. C'est plus comme ça la vie aujourd'hui. Ouais. On n'a plus besoin de faire ça. Puis c'est très lucide ce qu'il expliquait. Il disait, tu sais, avec les méthodes, la technologie, moi, je passais mes fins de semaine à faire de la comptabilité à mi-temps, mais maintenant, ça marche plus comme ça, ça fait que c'est tant mieux. Mais il dit, on n'est plus obligé de faire ça, puis je veux pas que personne ait besoin de faire ça. Il faut s'occuper de son monde, il faut s'occuper de sa famille.
Et Jacques a amené Ameublement Tanguay et les organisations, ils travaillent ensemble. Tu sais, Maurice et Jacques ont travaillé ensemble toute leur vie. Là. Et Jacques amène ça à un autre niveau, il l'a amené à un autre niveau. Puis là, ben, les enfants de Jacques sont en train d'amener les organisations aux années 2020.
Le commerce électronique sur tanguay.ca a changé à tabarouette dans les dernières années.
C'est récent, la pandémie leur a permis d'accentuer tout ça. Mais ça revient aux valeurs, ça revient à... Tu sais, c'est bien bâti. Le solage est très, 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 très solide dans ces organisations-là.
Pas besoin d'appeler... Non. Fissure, voyons, Colline, Caillou fissure dedans. Et tout, là.
Non, c'est ça.
Puis pendant que M. Tanguay travaillait 80 heures par semaine au début, dans les premières années, c'est Madeleine qui élevait Jacques et les deux filles.
Mais elle était souvent avec Maurice, Madeleine.
Oui,
dans tous les événements.
Ce que je veux dire, c'est si aujourd'hui Jacques et ses fils, il y a beaucoup de Madeleine, de Madame Madeleine aussi là-dedans.
Ben oui.
C'est là où je voulais emmener. Fait que bref, c'est sûr que tout le monde a un peu un pincement au cœur, mais nos pensées accompagnent
davantage. Il y a bien des gens qui sont touchés personnellement.
La famille, les proches,
les enfants malades.
Oui.
Il y a beaucoup de familles qui remercie M. Tanguay. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Écoute, c'est des enfants handicapés. Moi, il y a un temps des fêtes, il m'avait invité à aller voir c'est quoi. Il y a une journée dans le temps des fêtes où il invite toutes les familles dans une grande salle. Puis il y a des jeux partout. Puis les enfants, ils s'amusent. Ils font juste s'amuser. Ouais. Il m'avait invité. Puis le regard des enfants, là, ça te fait réaliser à quel point
ce
qu'ils font, ces gens-là, c'est extraordinaire.
Puis n'oubliez jamais, la philanthropie, c'est ni obligatoire ni automatique.
Non, c'est ça.
On aura bien beau dire, il était mieux nanti que d'autres. Et puis, M. Tanguay disait, nous autres, on était plus chanceux que d'autres. Or, on s'entend-tu que c'est du travail, là?
Mais tu fais ta chance dans la vie.
Oui, c'est ça. Mais il disait, nous, on était mieux chanceux que d'autres. On en a plus que d'autres. Ça fait qu'il faut qu'on donne. Mais ça part d'une valeur, d'une volonté. C'est pas un automatisme, c'est pas une obligation.
On aurait pu garder ça.
La philanthropie, c'est pas automatique, c'est pas obligatoire. 9h30, on va s'arrêter quelques minutes, ce sera pas long.